De nouveau, bonsoir Patrick Coutin.
Bonsoir Alban.
Nous nous retrouvons pour la suite de votre nuit rêvée sur France Culture.
On vient d'entendre un extrait de l'album qui sortira en octobre, mais qui fait partie de ce triptyque que j'appelle le triptyque du paradis, qui est une série de 3 vinyles, un en français, dont vient le titre « Marilyn est folle », un autre en anglais, que j'ai écrit longtemps après avoir vécu ces 2 ans aux USA, mais qui est en fait l'album que j'aurais dû faire quand j'ai quitté la Californie. Et un autre de reprise où j'ai voulu mettre des titres qui avaient un peu construit mon histoire. Tout ça réuni dans une pizza box avec 3 sérigraphies faites par Liberator, Shelton, Eddie Rosa, un livret, etc., etc.
Et donc cet album dont vous venez de parler, Obsolete Paradise, c'est son titre. Obsolete, c'est en hommage à l'album de Dashiell Hedayat,
oui,
de Gong.
Absolument, oui. C'est avec lui que j'avais appris le mot. Je connaissais pas le mot, pour tout vous dire. Et c'est, oui, bien sûr, Dashiell Hedayat a fait partie de mes formateurs, quoi. Je veux dire, indiscutablement. Et un garçon qui était extrêmement brillant, très cultivé, intelligent, magnifique.
Et donc 3 albums, mais 3 albums vinyles, dont les pochettes sont signées donc par 3 artistes, 3 illustrateurs de talent. Pourquoi ?
J'avais envie. Au départ, je voulais finir. Vous voyez, on se dit toujours, tiens, je vais finir sur quelque chose de bien. Et donc, je me disais, refaisons quelque chose comme on faisait nos disques autrefois, c'est-à-dire en pleine innocence, en se foutant bien du nombre de ventes, de ce que ça va faire, etc. Donc, je voulais faire un objet d'art, en fait, un bel objet. Et puis, là-dessus, Di Rosa est passé par là, il m'a dit, oh, bah, il faut que je fasse la pochette. Et puis, je me suis dit, bah, s'il fait la pochette, si c'est pour faire un CD, ça sert à rien, parce que c'est tout petit. Donc, on est parti sur l'idée de faire des sérigraphies, puis après de le faire en nombre très limité. Il y aura que 300 exemplaires de chaque. Ben, de tout, d'ailleurs, 300 exemplaires au total. Et petit à petit, cette idée est venue de faire quelque chose où, finalement, ça soit que le désir artistique qui prime. Rien d'autre n'existe. Voilà, que l'envie de faire un joli truc.
Et pourquoi paradis ?
Alors, l'idée du paradis, d'abord, moi, j'étais éduqué avec l'idée du paradis. Quand on était un petit enfant, on nous parlait du paradis comme la chose la plus extraordinaire qui allait nous arriver, vu que on allait avoir une vie de merde. Forcément, Dieu nous attendait là-haut. Donc, cette idée que peut-être, si on était bien, gentil, on irait au paradis, quelque chose qui était très fort dans la mentalité européenne et française de quand j'avais 7-8 ans. Quelle que soit la culture méditerranéenne ou pas que l'on avait. Et puis après, il y a eu la deuxième promesse du paradis qui était si les ouvriers, les gens pauvres, les paysans se révoltent, on arrivera peut-être à faire, parce que le rêve marxiste, c'est le paradis sur terre, c'est-à-dire une forme d'égalité dans lequel tout le monde travaille, dans lequel on n'exploite plus un autre être humain pour gagner de l'argent, etc. Bon. Et puis il y a eu ce troisième paradis qui était le paradis hippie. Pendant un moment, on a cru qu'on pouvait vivre à 10, pratiquement dans la même chambre, tout partager. Le plaisir sexuel allait, par exemple, remplacer plein de maladies qu'on avait. Puis après, il y a eu les paradis artificiels qui ont été le moment où sont arrivés le LSD. Et puis le moment où, moi je pense que c'est pas arrivé tout seul, où subitement on a eu des drogues mortelles comme l'héroïne, etc., qui ont décimé littéralement... une génération, notamment de révolutionnaires, comme aux USA, notamment beaucoup de Black Panthers, cette chose comme ça. Et en France aussi, d'ailleurs. Et en Europe aussi. Donc, je me suis rendu compte, petit à petit, en composant cet album, que finalement, cette idée du paradis était quelque chose qu'on nous vendait, qu'on nous reprenait, qu'on nous remettait. Et puis, ça s'est conjugué avec deux autres anecdotes. D'une part, quand je suis arrivé aux USA, je me suis trompé d'aéroport. Donc, on m'attendait à San Francisco, je suis arrivé à Oakland. Et j'ai eu la chance de tomber sur une hôtesse de l'air qui m'a dit « Mais vous pouvez pas rester là avec votre plâtre et votre guitare, vous allez vous faire massacrer. » Donc, je vous donne ma chambre d'hôtel. Et donc elle m'a emmené dans son hôtel, elle m'a donné sa chambre d'hôtel, elle a dormi avec une copine. Et elle avait une culture un peu latino, elle était à moitié d'origine mexicaine. Et quand je lui ai dit oh, « merci, vous êtes vraiment gentil, etc. », elle m'a regardé en souriant, elle m'a dit « Welcome in Paradise », ce qui est le titre que j'ai gardé. C'est-à-dire « Bienvenue au paradis ». Et je sais qu'il y avait à la fois, bon, pas mal d'humour dedans, parce que les Américains ont aussi beaucoup d'humour sur leur paradis. Puis j'ai revu une autre fois, je pense que c'est au milieu du désert du Nevada, vous êtes dans un endroit totalement désert, il y a une station-service avec trois trucs qui roulent et il y a un panneau « Welcome in Paradise ». Donc toutes ces images du paradis m'ont tout le temps beaucoup marqué et je voulais parler de cette idée des paradis qu'on essaie d'avoir, qui sont perdus, qu'on retrouve, mais auxquels finalement on croit toujours, y compris quand vous refaites trois albums comme j'ai fait, finalement vous y croyez encore. Au paradis.
Patrick Coutin, retour en arrière. Par quel hasard de la vie êtes-vous né en Tunisie où vous avez passé votre petite enfance ?
Eh bien, je suis né en Tunisie parce que mon papa, qui était militaire, militaire communiste d'ailleurs, sur le fond, qui est donc assez drôle à l'époque, qui revenait du Vietnam où il avait vécu la fin de la présence française au Vietnam de façon assez douloureuse quand même, a été en Tunisie et là il a rencontré ma maman. Et malgré des choses très, 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 très compliquées à l'époque, parce que mon papa était un monsieur déjà âgé, ma maman aussi, elle était de culture israélite, lui était de culture, on va dire, catholique, bien qu'il était, je pense, pas très pratiquant, même pas du tout. Et ils ont quand même... trouver le moyen de se rencontrer, de se marier, de faire des enfants. Donc voilà, je suis né comme ça en Tunisie et j'y suis resté jusque, je pense, vers l'âge de 4-5 ans, ou quelque chose comme ça.
Et ensuite, vous avez vécu dans la région de Saumur. C'était un changement de climat et de décor assez radical.
Moi, ça m'a pas marqué, tout ça. C'est pas ce qui m'a... Saumur m'a marqué de façon... Parce que c'est une ville particulière, Saumur. C'est une des villes qui était, si je me souviens bien, dans les dites Nantes. C'est une ville qui est un peu isolée, même dans le Maine-et-Loire, qui est déjà un monde, quand on connaît Paris, très différent. C'est pas Saumur. Finalement, moi, je me suis adapté partout où j'étais. J'étais en pension à Beauger, pas trop loin de Saumur. C'est pas très drôle, la pension, mais bon, je me suis bien amusé. Saumur, j'ai gardé des souvenirs de la Loire, ce fleuve étonnant qui est à sec l'été, qui charrie des lourdes eaux pendant l'hiver. Et puis, j'étais plus choqué par l'arrivée sur Paris. Notre arrivée sur Paris, c'est Paris, une ville que j'imaginais magnifique, était noire à l'époque. C'était terrifiant. Tous les murs étaient noirs. Je veux dire, Et puis après l'arrivée, on a passé quelques temps à La Courneuve où là c'était quand même déjà un monde un peu difficile. Et puis finalement, parce que ma mère voulait pas vivre à La Courneuve, on est arrivé à Sarcelles.
À quel âge ?
Oh, j'ai dû arriver à Sarcelles. Bah, écoutez, c'est très simple. Je suis arrivé à Sarcelles en 68, en mai 68, puisque je suis arrivé après les vacances scolaires, que j'avais une liste de bouquins à aller acheter, que j'ai été chez Gibert Jeune à Paris acheter mes bouquins, et que c'était le jour de, je crois, de Gay-Lussac ou de quelque chose comme ça, où la gare du Nord était fermée, j'ai pas pu rentrer chez moi, enfin mes parents étaient morts d'inquiétude. Donc je suis arrivé en mai 68 à Paris, j'avais 16 ans. Voilà, à Sarcelles.
Patrick Coutin, donc dans la deuxième partie de votre nuit, nous entendrons une émission qui évoquera le Sarcelles du début des grands ensembles de la Ville Nouvelle. À quoi ressemblait le Sarcelles de votre adolescence, de votre jeunesse ? À quoi ressemblait une jeunesse à Sarcelles au début des années 70 ?
Écoutez, on va revenir à cette idée du paradis. Pour moi, c'était une ville extraordinaire, d'abord parce que c'était une ville-monde dans lequel il y avait toutes les cultures, toutes les religions, tous les passés, tout ce que vous pouviez imaginer. Beaucoup de gens qui avaient été chassés pour des raisons politiques, souvent de leur pays, beaucoup de réfugiés. Et que tout ce monde-là vivait de manière fluide. C'est-à-dire, bon, on savait pas quelles étaient les origines de l'autre, ou on savait un petit peu, mais à peine. On se foutait bien des religions, on se foutait bien de tout ça. L'État faisait encore son travail à l'époque, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup, beaucoup de moyens, que ce soit le sport, que ce soit les bibliothèques, les discothèques, le forum des Cholettes qui avait été construit au milieu d'un immense centre commercial, en tout cas pour l'époque, peut-être qu'il était plus petit, et qui nous permettait, on avait 18 ans, d'organiser nos premiers concerts. On a fait venir Higelin, on a fait venir... Bon. Donc c'était une ville qui m'a beaucoup apporté sur... qui m'a préparé aux USA, déjà. Et qui m'a beaucoup apporté sur le plan culturel et humain. Par exemple, j'ai eu un prof qui était un ancien musicien du roi du Maroc, qui m'a appris un peu de oud. On dit, je sais pas comment ça se dit réellement. Bon, d'autres personnes qui m'ont appris de la guitare, d'autres personnes qui m'ont fait partager des nourritures qui n'étaient pas courantes à l'époque. Et ça a été pour moi une ville très accueillante.
Et avez-vous senti qu'à partir d'une certaine époque, les choses se dégradaient ?
Oui. Alors ça, c'est la France, hein, c'est pas que Sarcelles. C'est-à-dire que moi, je me demande encore comment on a pu rater, à quel moment on a raté ce virage. Je me pose souvent la question parce que on était parti pour construire un monde nouveau. C'est indiscutablement vrai, un monde avec une ouverture d'esprit, une tolérance, une intelligence, un dynamisme incroyable. Et puis, on se retrouve aujourd'hui dans un monde où on a des couronnes autour des villes qui sont dans le mal-vivre, qui sont dans quelquefois dans des problèmes avec la drogue, avec des choses, mais des vrais lourds problèmes, parce que ce sont des problèmes qui touchent pas une personne qui est un allumé dans son coin, qui fume du cannabis de temps en temps. Ça devient vraiment quelque chose de pesant. Avec, on a eu des émeutes il y a quelques années, et avec des problèmes qu'on n'arrive pas à régler. Et on se dit, mais j'ai failli dire un gros mot, mais je vais dire zut à la place. À quel moment ce pays a-t-il raté la marche qu'il était en train de franchir allègrement, c'est-à-dire avec un pays qui était peut-être le plus avancé du monde en termes d'intégration, de capacité à former les gens, alors avoir un ascenseur social qui fonctionnait, etc. Voilà. Moi, j'aimerais bien trouver la réponse. J'ai dû rater quelque chose. C'est peut-être pendant que j'étais aux USA que ça s'est passé. J'en sais rien, mais ça pose question. Oui.
Vous avez vous-même été impliqué dans la vie municipale d'une grande ville de banlieue, Bobigny, dans les années 90-2000. C'est d'ailleurs une expérience que vous évoquez dans une de vos chansons, Labo Social, sur l'album Bleu, Patrick Coutin.
Absolument. Oui. Oui. Parce que ce que j'ai aimé dans le Bobigny de l'époque, qui était, je m'excuse, hein, je fais pas de propagande, mais c'était une ville coco à l'ancienne. Donc avec des gens qui avaient un très haut sens de ce que devait être l'égalité, l'acceptation de toutes les cultures, le vivre ensemble, etc. Et moi, ils m'avaient demandé de venir monter un lieu de musique qui s'appelait le Canal 93, avec cette espèce de souci de créer ce qu'on appelait du vivre ensemble. Et à l'époque, déjà, on était dans un pays qui avait des très graves problèmes avec sa jeunesse, et notamment sa jeunesse banlieusarde. Et on a passé quelques années à essayer précisément de recréer ce labo social dans lequel on essayait de trouver comment faire pour que un mec qui fasse du rap communique avec quelqu'un qui fasse du blues ou de la chanson française. Comment ces gens peuvent avoir leurs différences et en même temps vivre ensemble et échanger et même créer ensemble. Oui. Voilà ce que j'ai fait pendant quelques années.
C'est avec Sartre que s'ouvrira le programme d'archives de cette deuxième partie de nuit, avec une lecture d'un extrait de L'enfance d'un chef, pour le dire vite, un récit introspectif de la construction d'un salaud antisémite. Pourquoi Sartre et pourquoi ce texte ?
Alors, Sartre d'abord parce que j'ai découvert Sartre à 15 ans à peu près. J'avais très joli prof de français qui m'avait dit « Ah, vous devriez lire ça ». Donc, c'était un peu le cadeau qu'elle m'a fait et que tout de suite j'ai été... Alors la première nouvelle que j'ai lue, c'était un recueil qui s'appelle Le Mur, dans lequel on trouve l'enfance d'un chef, et qui est... C'est facile à lire parce que ce sont des nouvelles, c'est écrit comme un roman. C'est le Sartre philosophe existentiel, mais qui raconte une histoire. Et ce texte m'avait frappé parce qu'au départ, on a un gamin qui est comme tout le monde. C'est un fumiste, bon, il n'est pas trop bête, donc il a des bons résultats à l'école. Et puis, petit à petit, il est façonné par la société pour devenir le remplaçant de son père dans une usine. Et donc, effectivement, un parfait salaud, quoi, pour être... Et ce qui m'avait frappé, c'est que dans une certaine mesure, il devient la personne la plus horrible du monde. Et dans une autre mesure, il était moi. Et c'est une réflexion qui m'avait fasciné à l'époque sur ce que c'est que l'éducation, ce que c'est que l'entourage familial, comment il fait de vous finalement quelque chose qui est le contraire de l'être humain que vous êtes. Alors on peut renvoyer à Rousseau, on peut renvoyer à d'autres, etc. Bon, en tout cas, ça a été mon introduction à la philo. Et ça a été aussi mon introduction à cette question qui est que si on ne s'éduque pas correctement, si on ne réfléchit pas correctement, si on n'a pas autour de soi des gens qui vous guident vers ce que c'est qu'être un être humain un peu mieux, on peut facilement tomber dans être un crétin, quoi.
Au début des années 70, entre Sarcelles et donc vos études de philosophie à la Sorbonne, comment, dans cette période post-68arde, se construisait votre conscience politique et celle des gens de votre âge entre Sarcelles et Paris ?
Alors nous, c'était facile. Nous, on était pour un monde égalitaire, un monde dans lequel tout le monde avait les mêmes chances. On était pour un monde dans lequel les femmes étaient traitées avec les mêmes droits que les hommes, dans lequel les gens qui venaient d'Afrique étaient traités exactement comme le petit blanc moyen. On était déjà dans un monde où l'immigration avait fait beaucoup de mal, où des gens avaient été presque un peu déracinés de force, notamment des Antilles, pour les faire venir en France, parce qu'on avait besoin de main-d'œuvre. Il y avait une explosion de consommation à l'époque. Et donc, et puis surtout, on trouvait que le gouvernement et les gens qui nous dirigeaient étaient vieillots, quoi. Je veux dire, bon, certes, c'était des héros, ils avaient gagné la guerre, mais on ne pouvait pas se reconnaître dans ces hommes politiques, dans leur façon de parler, leur façon de s'habiller, leur façon de concevoir la culture, etc. Même s'ils ont fait des grandes choses, hein. Aujourd'hui, c'est plus facile de trier. Donc, nous, notre idée, c'était qu'il fallait faire confiance à des gens plus jeunes et qu'il fallait que ce monde change et que surtout, les femmes aient le droit de voter, de conduire, enfin, etc. On parle de ça quand même, hein. On parle d'une époque où c'était, il y avait des choses pour avoir un compte en banque, ma mère a été obligée de demander l'autorisation de mon père. Quand même extraordinaire. Bon. Donc, on se battait pour un monde différent, notamment pour le respect dû aux femmes. Mais pas que ça. Tout ce qu'on pouvait imaginer, beaucoup de choses nous semblaient pas bien. Et puis, il y a eu cet après 68, et la philo a permis un peu de commencer à réfléchir. Bon. C'est aussi été un échappatoire, pour tout vous dire, parce que quoi faire quand vous êtes un peu marginal déjà mentalement. Je n'étais pas encore dans la musique. Il fallait bien que je m'investisse quelque part. De vous à moi, la philo, c'est la chose la plus simple. Hein. Je veux dire, je savais lire. J'avais déjà fait un peu de philo parce que j'avais passé mon bac en candidat libre. J'étais à Condorcet, donc j'avais suivi les cours de philo pour faire un peu comme si j'avais eu des vrais cours de philo en Hippocagne. C'était très intéressant. Il y avait des grands philosophes à l'époque. Hein. Je parle pas que des Badiou ou des Lacan, qui n'est pas un philosophe au sens propre du terme, mais qui était un penseur, etc. Deleuze, bon, bref, l'âge d'or un peu de la philosophie française. Donc c'était tentant, même si sur le fond, j'avais plus envie de me promener que d'aller jusqu'au bout.
Patrick Coutin, vous avez voulu qu'Angela Davis figure dans votre nuit. Nous l'écouterons en 1975 au micro de Jean Montalbetti. Angela Davis, militante américaine, communiste, féministe, membre un temps aussi des Black Panthers, plusieurs fois emprisonnée. Angela Davis, icône de la contestation de l'Amérique des années 60-70, que représentait-elle pour vous à cette époque ?
Le symbole du racisme américain contre son propre peuple, hein, puisque quand même les Afro-Américains sont quand même très nombreux. L'Amérique, c'était encore à l'époque des immenses ghettos où 80% de la population était maltraitée, où il devait y avoir 10 fois plus de chômage que dans le reste des USA. C'était un pays où le racisme existait, où on tuait les leaders noirs comme Malcolm X, etc. Et Angela Davis, qui est une femme très belle, très intelligente, qui parle un français fantastique, une philosophe en quelque sorte, avait eu le courage de monter au créneau, prendre les armes, je sais pas, en tout cas, ça n'a jamais été tout à fait su, mais en tout cas se bagarrer. Elle avait payé très cher, elle avait été en prison, condamnée à une très lourde peine qu'elle avait réussi à faire annuler. Donc elle était le symbole de tout ce que je viens de dire, c'est-à-dire de l'émancipation, de la volonté de changer le monde, de la volonté d'égalité entre les gens, les cultures, etc., etc. Pour moi, c'est un symbole extrêmement fort, Angela Davis. Quand j'ai recroisé en France, quand elle est revenue notamment à Bobigny, j'étais comme un enfant, quoi.
Angela Davis, communiste.
Oui.
Sarcelles a été de 1965 à 1983 une municipalité communiste. Que représentait alors pour vous, pour les jeunes de Sarcelles, l'idée, l'histoire, le projet communiste tel que l'incarnait à cette époque le Parti communiste français et ses militants dans une banlieue comme la vôtre, Patrick Coutin ?
Alors c'était contradictoire parce qu'on était d'une manière générale pas communiste, on n'aimait pas beaucoup l'URSS, on n'aimait pas tellement plus la guerre du Vietnam vue par les Américains que par les Russes, si vous voyez ce que je veux dire. Donc on n'était pas... Mais par contre, les maires, le maire de Sarcelles, le nom va me revenir, Kanakos à l'époque, était un monsieur extrêmement ouvert aux jeunes, qui nous recevait, qui nous a permis de faire plein de choses, et qui faisait que dans sa ville, une réelle égalité soit. Et c'était d'ailleurs la grosse contradiction des mouvements politiques de l'époque. C'est-à-dire que les gaullistes, par exemple, avaient des côtés très durs, très militaristes, etc. Mais les maires gaullistes étaient plutôt sympas. Il y en avait un dans la ville d'à côté. On pouvait organiser des concerts chez lui aussi. Et les cocos, qui avaient ce côté un peu russe, ce qu'a de le dire, c'était pas très drôle, la Russie, à l'époque, avaient aussi une position locale qui était très intéressante. C'était une société dans laquelle je pense que les adultes faisaient encore grand cas de l'éducation et des possibilités qu'ils donnaient à leurs enfants de devenir des êtres humains complets et intègres et intégraux. Donc c'était pour bon, mais on était révolutionnaire plus anarchiste que communiste au sens, même si j'ai lu Marx, etc. On n'était pas embrigadés là-dedans. On avait une façon de penser très, 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 très libre. Mais c'est vrai que, à l'époque, les communistes étaient souvent plus ouverts à nous aider que d'autres.
Et la musique venue d'Angleterre et des États-Unis venait se mêler à tout ça.
Et la musique est venue se mêler à tout ça, d'abord parce que c'était un mode de vie. C'est une façon de s'habiller, c'est une façon de vivre, c'est une façon de s'amuser. Et puis que cette musique, elle était contestataire. De toute façon, nos parents disaient, mais elle est pas bien ta musique. Donc elle était forcément bien, cette musique. Mais il faut quand même dire que ça bougeait, c'était beau, c'était plein de talent. Il y avait des gens qui avaient un talent incroyable. bon, vous allez me dire les Beatles, mais les Rolling Stones, les Doors, enfin bref, c'est d'ailleurs, si on parle encore aujourd'hui, si on fait des biopics avec Queen, qui était loin d'être un des grands groupes de l'époque, c'était un groupe un peu, il faisait un peu de la musique de stade pour nous, hein, j'en étais pas des fans de Queen, c'est que cette période a quand même profondément marqué les esprits en créativité.
Autre figure américaine des années 60 dans votre nuit rêvée, figure légendaire entre sport et politique, Mohamed Ali. Ce choix, c'est pour le boxeur qu'il a été ou davantage pour celui qui a refusé de se battre au Vietnam, pour ce qu'il a représenté dans le combat des Noirs américains ?
Je dirais les deux, parce que c'était un boxeur faramineux, c'était le Jimi Hendrix de la boxe. Quand on voyait boxer Mohamed Ali, on avait l'impression d'un danseur, alors qu'il devait faire, je sais pas, plus de 100 kilos. Et c'est aussi un mec qui était d'un courage extraordinaire, parce que s'il avait accepté d'aller au Vietnam, bien évidemment, on ne l'aurait pas envoyé au front. On lui aurait trouvé, comme on faisait pour les sportifs américains à l'époque, un boulot. Bon. Mais il avait fait le choix de changer ce qu'il appelait son nom d'esclave, Cassius Clay en Mohamed Ali. Il avait fait le choix aussi d'aller en prison pour ses idées, en disant il n'y a pas de raison que j'aille tuer un Vietnamien. Oui, il m'a rien fait.
Oui, qui ne m'a jamais traité de sale nègre.
Et qui, lui, ne m'a jamais traité de sale nègre, contrairement à ce qu'on a fait toute ma vie. Et c'était très courageux, parce que c'était briser sa carrière, c'était accepter, ne serait-ce que pendant les années où il a attendu son procès, qui ont duré des années. Il est devenu pauvre, il est devenu rien, il n'avait plus le droit de voyager, de voter. Donc pour moi, c'est un symbole de cette vitalité des Afro-Américains. C'est, je dirais, presque le pendant d'Angela Davis. Pour ma génération, le combat d'un certain nombre de peuples, on va appeler ça des peuples, même si c'est très difficile de dire, parce que c'est le peuple noir américain, le peuple afro-américain, mais les Africains notamment, qui sont aussi révoltés à cette époque, les Vietnamiens, enfin les Asiatiques, pour ma génération, c'est très important. On a été du côté de ces gens-là. Voilà.
Just the way things go. If you're black, you might as well not show up on the street, unless you wanna draw the heat.
C'était Hurricane et par Bob Dylan. Quelques mots,
oui,
à propos de cette chanson.
Excusez-moi, je vous ai coupé. C'est l'histoire de Mohamed Ali, je dirais, d'une façon différente. Robin Carter, dit Hurricane, condamné, qui était une grande gueule, hein, c'est clair, qui se battait pour sa cause, celle de ses frères et sœurs, et qui a été condamné de manière totalement injuste. Mais comme il y en a eu des dizaines et des dizaines aux USA. Je veux dire, il faut savoir qu'il y a eu des enfants qui ont été condamnés à mort, exécutés, dont on s'est rendu compte qu'ils n'étaient pour rien dans les meurtres, etc., etc. Bon, oui.
Patrick Coutin, sans même parler de la très troublante personnalité de leur président actuel, les États-Unis d'Amérique d'aujourd'hui exercent-ils sur vous le même attrait que dans les années 60-70 ?
Alors, c'est délicat parce que il y a une culture américaine qui est absolument fantastique et qui est un peu, je dirais, la culture européenne mélangée à la culture blues, donc africaine, et à la culture latine, qui est très très forte aussi en Amérique, que je trouve très intéressante parce que c'est un creuset fantastique. Bon, en ce moment, c'est une catastrophe, la politique américaine, et tous mes Américains sont au fond du trou, hein, je veux dire. L'Amérique n'est pas un pays si simple que ça. Est-ce que cette culture me fascine autant qu'avant? Non, parce que de toutes les façons, on est dans un creux culturel. La culture du monde actuel, je ne dis pas qu'il n'y a pas des choses intéressantes, mais on a une culture qui est tournée vers le merchandising essentiellement, une culture qui est devenue un objet de vente ou de désir avant d'être un objet d'élévation des êtres humains. Donc la culture en ce moment, c'est qu'elle soit américaine ou française, c'est assez un peu triste par rapport à ce que ça a été.
Et du côté de la musique, là-bas comme ici, qu'est-ce qui vous capte? Qu'est-ce qui vous accroche? Quoi de neuf? Quoi d'intéressant pour vous dans la musique populaire?
Pour être honnête, tout passe bien. Vous voyez ce que je veux dire? Vous pouvez pratiquement tout écouter. Il n'y a pas grand-chose qui soit intéressant. D'abord parce que 90% de ce que j'entends, je sais d'où ça vient. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans un monde de plagiat et de pillage.
Donc, de recyclage.
Voilà, on recycle. Alors, on change un peu la batterie derrière pour mettre une boucle. On met un autotune sur la voix pour compliquer un peu la mélodie, etc. Mais sur le fond, je connais les chansons et les auteurs qui les ont et les artistes qui les ont inspirés. Ça ne veut pas dire qu'il y a pas des... Il y a des gens qui chantent très bien, il y a des guitaristes incroyables, il y a vraiment des très bons musiciens, mais la demande culturelle... Elle est un peu triste. Mais il y a des trucs de temps en temps. Il y a une espèce de renouveau du blues un peu techno que j'aime bien. J'aime bien la techno, moi, d'une manière générale. Je trouve que c'est la musique la plus en phase avec l'époque. Si j'avais 18 ans aujourd'hui, je ferais de la techno, de l'électro, quelque chose comme ça. Mais c'est pas un hasard si je vois tous les mômes qui sont sur Deezer ou Spotify arriver en me disant « Ah, mais j'ai découvert un truc, ah, c'est quoi? C'est du Hendrix, c'est du Led Zepp et tout. » C'est parce qu'il y a une forme d'insatisfaction, je crois. Bon, ça reviendra, j'espère en tout cas.
C'est avec Henri Michaud et Delphine Seyrig que se terminera le programme de votre nuit. Pour Michaud ou pour Seyrig?
Alors au départ, c'était pour Delphine Seyrig qui était... un peu lenti tout ce que j'étais, vous voyez ce que je veux dire, et qui, avec le temps, est devenue presque la femme idéale. D'abord, elle était une grande beauté, c'est une grande actrice, capable de parler avec un snobisme consommé, de vous faire passer pour un crapaud, rien qu'à vous regarder, que j'ai croisé sans la connaître, mais que j'ai croisé une ou deux fois, parce qu'elle était assez accueillante des nouvelles générations, quand elle habitait, en tout cas... à Paris, pas très loin de la République, et qui est une femme qui me fascinait parce que pour moi, elle était tout ce qu'on pouvait espérer être en venant du vieux monde et en étant ouverte au nouveau monde. Et ce texte qui a été trouvé, il est magnifique parce que Michaud, c'est un poète de puissance et d'une violence extrême, comme je n'en connais pas aujourd'hui, et dit par Delphine Seyrig, avec beaucoup de simplicité, hein, je tiens à le dire, c'est magnifique la façon dont elle dit ça. Pour moi, c'est un peu le symbole de ce que j'ai aimé dans la culture française.
En 1985, Delphine Seyrig donc enregistrait une série de lectures de poèmes pour France Culture. Nous écouterons la première, « Je vous écris d'un pays lointain », donc de Henri Michaud, vous venez de le dire. Delphine Seyrig disait qu'elle ne pouvait pas lire de poètes dont elle ne connaissait pas la langue. Elle trouvait très jouissif, je la cite, que des poètes libanais comme Nadia Atouéni ou Georges Chéadé arrivent si bien à se servir de la langue française. Ceux qui écrivent d'ailleurs, disait-elle, sentent la langue française mieux que nous. Patrick Coutin.
Alors là, c'est quelque chose... D'abord, il ne faut jamais sous-estimer la culture française, notamment dans des pays comme le Liban, d'où venait, je crois, Delphine Seyrig, où il y a une connaissance du français, de la culture française qui est extraordinaire et qui est souvent comme une seconde culture. Mais on retrouve aussi ça en Algérie, où j'ai des gens qui parlent bien mieux français que moi, hein, pour tout vous dire. Donc, je sais pas, moi j'ai aimé de travailler avec la langue anglaise, parce que vous revenez à très peu de mots, j'ai dû faire un album entier avec 300 mots peut-être.
Et donc vous comprenez ce plaisir pour une langue étrangère
Oui, je comprends. D'abord parce que c'est une façon de vous libérer de votre propre langue. Le français, c'est très pesant. Moi, quand j'écris un truc et que c'est pas bien écrit, je dis, ah là, encore écrit comme un cochon, refait la syntaxe, etc., etc. Pourquoi? Parce que j'ai fait des études, que j'ai eu un bac de français ou de philo, donc je me sens obligé de bien parler le français. Avec l'américain, je m'en fous. Je veux dire, d'ailleurs, quand mes amis américains vont écouter ce que j'ai fait, si ça se trouve, j'aurai plus d'amis en Amérique, mais...
Selon Delphine Seyrig, les acteurs, les danseurs, les chanteurs cherchent à redécouvrir, plus ou moins consciemment, ce qu'a été l'enfance. C'est là que serait la racine de tout.
Ça, c'est aussi... Alors, c'est Delphine Seyrig, ce que j'aimais beaucoup chez elle, c'est que c'est une sensibilité féminine absolue. Voilà. Donc, globalement, je ne me sens pas forcément obligé d'être d'accord avec elle, mais je comprends ce qu'elle veut dire. Je veux dire, il y a de toutes les façons dans l'art, il y a deux choses. Une envie de se projeter vers quelque chose qu'on ne connaît pas et une envie de retrouver la sensibilité, l'amour aussi de l'enfance, l'émerveillement de l'enfance. C'est indiscutable. Je crois que l'art est un peu entre ces deux pôles.
Avant de nous quitter, vous considérez-vous comme un métis, Patrick
oui.
Coutin?
Oui, bien sûr. Oui. Je suis un métis total, de culturel, philosophique, même je pense que si on décodait mon ADN, on se rendrait compte que je ne suis pas aussi pâle que je... D'ailleurs, je bronze très vite.
Patrick Coutin, nous nous retrouverons dans 2h30, juste avant la fin de votre nuit rêvée, après avoir écouté une courte lecture de l'enfance d'un chef de Jean-Paul Sartre dans Heures de culture française, diffusée en 1953 sur la chaîne nationale. Sarcellopolis, un documentaire de Sébastien Descartes-Aide et Nathalie Salle pour Sur les docks. En 2015, entretien avec Angela Davis au micro de Jean Montalbetti en 1975. Sur les docks, Mohamed Ali, un destin américain, première partie, révolte 1964-1974, proposée par Alexandra Longuet en 2014. Et enfin, Delphine Seyrig qui nous lit Henri Michaud, Je vous écris d'un pays lointain, dans Poésie comédien en 1986. Patrick Coutin, votre nuit rêvée se poursuit sur France Culture.
À tout à l'heure, Alban.